Le journal présenté par Maxime Fayolle.
Bonjour à tous. Toujours aucune nouvelle ce matin de l'homme soupçonné d'avoir déposé un colis piégé à Lyon vendredi après-midi. De nouvelles photos de l'homme sur son vélo ont été publiées, mais leur mauvaise qualité rend très difficile toute identification. En attendant, l'enquête progresse tout de même. Benjamin Mathieu, on en sait désormais un peu plus sur les produits utilisés pour fabriquer ce colis piégé.
Nous l'avons appris hier, de l'explosif de type TATP a été utilisé lors de l'attaque au colis piégé. Cet explosif, appelé peroxyde d'acétone, est puissant, très instable. Il est aussi très difficile à détecter. Il est souvent utilisé dans les attentats suicides. C'est ce type d'explosif qui avait été utilisé, par exemple, dans les ceintures des terroristes lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Toujours selon nos informations, de l'ADN a pu être isolé, mais rien ne permet de dire pour le moment qu'il est bien celui de l'auteur présumé de l'attaque. La personne identifiée par les caméras de surveillance, un homme d'une trentaine d'années circulant à vélo, est toujours en cours d'identification et activement recherché selon le procureur de la République de Paris, Rémy Heinz. Les premières constatations sur place ont également permis de trouver sur le sol, à proximité des lieux de l'explosion, un dispositif de déclenchement à distance. Pour le moment, cet acte n'a fait l'objet d'aucune revendication.
Benjamin Mathieu, une enquête et une traque qui se déroule alors que se tient aujourd'hui le scrutin pour les élections européennes. 400 millions d'électeurs sont appelés aux urnes un peu partout en Europe. En France, les bureaux de vote viennent d'ouvrir leurs portes. Les européennes doivent permettre d'élire 751 eurodéputés qui vont siéger pendant 5 ans à Strasbourg. Ce n'est pourtant pas la seule ville qu'ils vont connaître, Marie-Pierre Véraud, puisque l'Union dispose de plusieurs centres de décision.
Le Parlement n'est que l'un des lieux où se façonne l'Europe, sans doute le plus démocratique puisque c'est la seule institution de l'Union directement élue par les citoyens, et les eurodéputés n'ont eu de cesse de renforcer leur pouvoir. Désormais, ils votent le budget, investissent la Commission, et pas une loi, hormis en matière de fiscalité, ne peut être adoptée sans leur aval. Mais attention, ce pouvoir législatif, ils le partagent avec le Conseil européen. Il faut un accord entre les députés et les 28 chefs d'État et de gouvernement pour qu'une loi voie le jour, d'où la négociation permanente entre ces deux instances, avec la Commission comme médiateur, ce que l'on appelle le trilogue. La Commission, justement dirigée aujourd'hui par Jean-Claude Juncker, à la tête d'une équipe de 28 commissaires, indépendante des États, c'est elle en quelque sorte qui tient l'agenda, à l'initiative législative, décide des textes qui seront examinés. Elle veille également à l'exécution du budget, gardienne des traités, elle peut sanctionner ceux qui s'en écartent, des pouvoirs très étendus donc, mais ce sont malgré tout les chefs d'État et de gouvernement au sein du Conseil qui gardent la capacité de bloquer ou d'impulser une politique.
Marie-Pierre Véraud, un Conseil de l'Union qui se situe, on l'a dit, dans la capitale belge, à Bruxelles, la Belgique où l'on vote aujourd'hui pour ces élections européennes, avec un découpage un peu particulier, 8 eurodéputés francophones, 12 flamands, un germanophone. Mais les Belges ne voteront pas que pour ces élections européennes aujourd'hui, Angélique Bouin, puisqu'ils élisent aussi les représentants dans les 5 autres parlements du pays.
Chaque électeur ne votera que 3 fois pour les élections européennes, législatives et régionales, mais il y a 4 parlements régionaux, le flamand, le wallon, celui de la petite communauté germanophone, ainsi que celui de la région de Bruxelles-Capitale. 3 scrutins donc pour 6 parlements, 366 listes et 7000 candidats, et un enjeu de taille au niveau fédéral, puisqu'il n'y a plus vraiment de gouvernement en Belgique depuis fin décembre. Le Premier ministre, le libéral Charles Michel, qui le dirigeait, a vu sa coalition avec les nationalistes flamands éclater lors de la signature du pacte mondial pour les migrations. Il gère depuis les affaires courantes. Les écologistes qui surfent sur la mobilisation des jeunes en faveur du climat pourraient profiter de l'essoufflement des centristes et des libéraux, selon les sondages, surtout côté francophone. Ils espèrent bien s'imposer comme une force incontournable dans la formation du futur gouvernement. Mais en Flandre, les nationalistes flamands du NVA devraient rester de loin la première force politique. Il faudra donc sans doute de longues semaines de concertation pour former la future coalition entre partis néerlandophones et francophone.
Explication d'Angélique Bouin. À peine plus de 12 000 gilets jaunes dans les rues hier, le plus faible total depuis le début du mouvement, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les manifestants estiment, eux, être 3 fois plus nombreux. Les gilets jaunes qui se sont mobilisés à Paris, mais aussi à Amiens, la ville de naissance du président de la République, Emmanuel Macron. Quelques dégâts sont à déplorer ce matin dans la capitale picarde. Nouvel incendie de grande ampleur à Bordeaux après celui d'un parking la semaine dernière. Hier soir, ce sont 4 immeubles qui ont été touchés par les les flammes dans le quartier des Chartrons. Une soixantaine de personnes a dû être évacuées. Un pompier a été touché à l'œil pendant l'intervention. À l'étranger, c'est un premier pas vers le dialogue entre Juan Guaido et Nicolas Maduro et peut-être l'espoir d'une sortie de crise au Venezuela. Les deux personnalités politiques du pays acceptent la médiation de la Norvège. Leurs deux délégations vont se rencontrer à Oslo la semaine prochaine pour la première fois après un premier refus la semaine dernière. Le Festival de Cannes, 72e édition, a pris fin hier avec une palme d'or historique. C'est le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho qui l'emporte pour son film Parasite qui raconte la rencontre entre deux familles coréennes. Il devient le premier coréen à remporter cette distinction cinématographique. Récompense également pour la française Céline Sciamma avec le prix du scénario pour Le portrait de la jeune fille en feu. La réalisatrice très heureuse de remporter un prix au sein d'une sélection de films engagés.
La sélection était très politique et c'était déjà une excellente nouvelle. Et politique aussi dans la typologie des films, hein, pas juste dans ce dont ils parlent, mais aussi la façon dont, par qui ils sont fabriqués, à quel prix, comment. C'est des films d'indépendants, c'est une jeune génération de producteurs. En tout cas, je parle pour la France. Et je crois que l'année est assez remarquable de ce point de vue-là et que le palmarès est plein de primo-accédants, plein de jeunesse et que ça fait vraiment plaisir de faire partie d'un corpus comme ça, quoi. J'ai pas le choix d'être artiste et femme, voilà, on sépare très peu la femme de l'artiste, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il ne faut pas oublier de dire que c'est des formes, que c'est des propositions de voyages sensuels et émouvants, des voyages d'humour, des voyages d'intelligence. C'est ça, le sujet, c'est le cinéma.
Céline Sciamma récompensée hier donc du prix du scénario à Cannes pour Le portrait de la jeune fille en feu. La météo de ce dimanche, un peu moins de pluie qu'hier globalement sur tout le pays. Le ciel reste couvert sur les Pyrénées mais aussi sur le massif central. Même la Côte d'Azur devrait voir quelques gouttes de pluie. Le soleil s'impose sur la vallée du Rhône avec toutefois Mistral et Tramontane qui vont souffler jusqu'à 80 km/h. Les températures vont de 7 à 12 degrés ce matin.